La proposition de loi organique pour actualiser le corps électoral provincial proposée par le sénateur Georges Naturel est loin de faire l'unanimité. On y revient dans un instant. Un nouveau maire du Mont-d'Or ce soir. Le conseil municipal doit nommer le successeur d'Eddy Le Courrieur. Réunion prévue à partir de 17h. Les ambulanciers du territoire en difficulté. Plusieurs entreprises risquent de fermer, nous a dit ce matin le président du syndicat des ambulanciers. Les heures du macronisme sont déjà comptées. La petite phrase de la porte-parole du gouvernement Sophie Prima déclenche une petite tempête politique. L'entrisme des frères musulmans scruté à la loupe. Un rapport de 73 pages montre leur stratégie pour imposer la charia en France. Et puis dans la page sport, Antoine Comboiré, victime des dirigeants nantais. Le Calédonien a été démis de ses fonctions d'entraîneur des Canaries. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La proposition de loi organique déposée par le sénateur Naturel pour actualiser le corps électoral provincial continue à alimenter le débat. Après les loyalistes et le rassemblement qui dénoncent une initiative solitaire et dangereuse qui aboutit à une rupture d'égalité, c'est au tour du PALICA de s'opposer de façon virulente à cette proposition, Elisabeth Noir.
Le PALICA dénonce une démarche irresponsable de la part de Georges Naturel en évoquant les émeutes de mai 2024, dont le projet de loi modifiant unilatéralement le corps électoral spécial provincial aurait été le déclencheur principal, écrit le parti. L'ambition provinciale du sénateur l'aurait-elle rendu amnésique au point de prendre le risque de recréer les conditions d'un nouvel embrasement du pays, interroge même le PALICA. Pour lui, le sujet du corps électoral ne peut être traité en dehors d'un accord politique global et il ajoute qu'en aucun cas la tenue des élections provinciales ne constituerait une solution durable. Suit une longue diatribe dans laquelle le PALICA estime que la démarche portée seule par le sénateur ni les engagements pris par les groupes politiques impliqués dans les discussions sur l'avenir institutionnel et menace la sérénité et la reprise apaisée du dialogue dans les prochaines semaines. Une démarche qualifiée également d'indécente puisque le sénateur s'invite dans les discussions sur l'avenir et s'approprie des résultats alors même que le processus est en cours. Le PALICA, dont la modération avait été saluée ces derniers mois, est en outre devenu le meilleur ami de Manuel Valls. Il réaffirme sa volonté de poursuivre la négociation selon la méthode menée et éprouvée par le ministre des Outre-mer, qui privilégie, je cite, le dialogue, l'écoute mutuelle, la transparence et le respect pour l'obtention d'un accord politique global. Pour le PALICA, il faut désormais trouver des compromis en vue d'une solution politique globale dont la base prédiseuse est aujourd'hui la proposition de l'État, celle d'une souveraineté avec la France et d'un transfert puis une délégation immédiate des compétences régaliennes. Un communiqué du PALICA qui lui permet de se positionner bien au-delà de la seule proposition de Georges Naturel.
Et le sénateur Naturel qui s'exprime à son tour après les différentes réactions suscitées par sa proposition de loi organique.
Dans son exposé des motifs, le sénateur précise que cette proposition de loi organique ne reprend en aucun cas les dispositions du projet de loi constitutionnelle voté le 14 mai 2024, mais qu'elle saisit la possibilité reconnue par le Conseil d'État d'actualiser le corps électoral provincial par voie organique. Il propose en conséquence d'inclure dans le corps électoral provincial les descendants des citoyens calédoniens, les Calédoniens ayant eu le statut civil coutumier et les natifs de Nouvelle-Calédonie et leurs enfants. Face aux réactions de la classe politique, il estime que deux positions opposées s'affrontent. D'un côté, ceux qui veulent un dégel total que seule une révision constitutionnelle peut rendre possible. Et il affirme que cette option est aujourd'hui irréalisable, faute de temps, faute d'une majorité assurée des 3/5 au Parlement et faute d'un accord politique global entre forces politiques calédoniennes. De l'autre côté, il y a ceux qui ne veulent rien changer en gardant totalement gelé le corps électoral provincial, une option que Georges Naturel qualifie d'inacceptable sur le plan démocratique. Le sénateur Naturel estime donc qu'il faut être réaliste et pragmatique pour être efficace et il affirme que sa proposition de loi organique est médiane, tout en reconnaissant qu'elle est bien sûr perfectible. C'est selon lui un petit pas pour éviter de faire du surplace aux prochaines élections, une proposition qui en tout cas ne fait pas consensus et qui pour l'instant semble surtout faire l'unanimité contre elle.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Le dégel du corps électoral doit-il selon vous rester un objectif prioritaire? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier, 71% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que Bruno Retailleau doit rester au sein du gouvernement comme ministre de l'Intérieur après son élection comme président des Républicains. Ils sont 29% à être d'un avis contraire. Passage de relais ce soir au Mont-d'Or où le conseil municipal est convoqué pour procéder à l'élection du maire de la commune après la démission d'Eddy Le Courrieur. Le maire sortant dirige la commune depuis 2019, quand il a succédé à Éric Gay. Sa liste dispose d'une large majorité au sein du conseil municipal de 35 membres et c'est sa quatrième adjointe Elisabeth Rivière qui est pressentie pour sa succession. L'élection se déroulera ce soir lors de la réunion du conseil municipal qui débute à 17h. Il est 11h36, une première pause dans ce journal avant de voir dans un instant le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Chez Panier d'essence, maman est à l'honneur. Un coffret qui dit merci pour tout, une carte cadeau qui dit je t'aime, vous trouverez à coup sûr le cadeau parfait. Panier d'essence, vos essentiels de bain, corps et maison pour une beauté naturelle qui sent bon la Provence. Ouvert 7 jours sur 7, complexe la promenade à Lansvata. Plus d'infos sur panierdessence.nc et Facebook.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie est un jeune de 22 ans mis en examen dans l'enquête sur le meurtre du gendarme Molinari. Selon nos confrères de La Voix du Caillou, il est actuellement incarcéré au camp Est pour un carjacking avec violence. Il avait eu lieu le 11 juin dernier à Saint-Louis. Il avait alors dérobé le véhicule d'un couple et avait été condamné à 2 ans de prison, dont un avec sursis. Il vient donc d'être aussi placé en examen dans l'enquête sur le meurtre du gendarme Molinari. Et puis l'actualité judiciaire, c'est aussi la poursuite de la session d'assises à Nouméa. Les jurés se penchent depuis ce matin sur un viol sur mineur de 15 ans. Les faits se sont déroulés à Nouméa entre 2015 et 2020 et la victime était âgée de seulement 7 ans au début des faits. L'agresseur, qui ne conteste pas ce qui lui est reproché, est désormais âgé d'une cinquantaine d'années. Il est actuellement en détention provisoire. Le secteur du transport de patients en difficulté, c'est ce que nous a dit le président du syndicat des ambulanciers de Nouvelle-Calédonie. Camilo Keletaona était notre invité ce matin à 7h30 et il déclare que plusieurs entreprises ont ou vont encore fermer. Il estime que les pouvoirs publics n'écoutent pas suffisamment les doléances des ambulanciers.
Nous sommes aujourd'hui au pied du mur. Alors quand on fait le bilan, pas de revalorisation financière des prestations depuis au moins 10 ans, notamment des 40% des urgences toujours en souffrance obtenues après une grève de 3 ans, il faut le rappeler. Pas d'application du tarif Covid accordé par arrêté pour les mesures sanitaires obligatoires lors de cette fameuse épidémie. Pas d'aide face aux difficultés de la CAFAT, comme la compensation des cotisations sociales avec les encours de facturation. Pas de compensation pour le service rendu lors des émeutes. Pas de revalorisation salariale digne de ce nom encore depuis une dizaine d'années. Ce que nous recherchons en fait, c'est une vraie considération, une oreille attentive et active vis-à-vis de cette situation. Ce sont de nombreux emplois qui sont en danger, autant de gens qui perdront leur travail et leur motivation.
Le syndicat des ambulanciers de Nouvelle-Calédonie a demandé un rendez-vous à Claude Gambet, membre du gouvernement en charge du secteur de la santé, pour lui faire part de ses sujets de préoccupation. L'objectif du syndicat est de redonner de l'attractivité à la profession.
Personne ne veut venir travailler en tant qu'ambulancier parce que d'une part le salaire n'est pas du tout attractif. Pour rappel, hein, après la crise de 2015, donc a eu lieu une étude par KPMG, les tarifs locaux sont inférieurs de 82% par rapport aux tarifs métropolitains. Toute considération prise, hein, de toute façon, hein, en considérant ce qui est comparable.
Est-ce que le métier d'ambulancier est un métier dans lequel il y a une pénibilité au travail qui est considérable? Parce qu'on le sait que ça fait partie de l'attractivité aussi.
Certainement, par rapport à la désorganisation, par rapport au montant du salaire, etc., il y a une désorganisation certaine qui fait que, oui, effectivement, les personnes n'ont envie de travailler en tant qu'ambulancier et de faire des horaires impossibles. C'est du travail. Il y a du travail de nuit aussi. Donc il y a une certaine pénibilité aussi à prendre en considération. Tant qu'elle n'est pas organisée, tant qu'elle n'est pas bien gérée, ça peut être un facteur de désintéressement en tous les cas.
Et pour Camilo Keletaona, qui était interrogé ce matin par Nicolas Legrand, la valorisation de la profession passe aussi par la mise en place d'un diplôme local reconnu au niveau européen. Une interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet rrb.nc. Après 3 années d'action, le Sénat coutumier présente sa brochure de vulgarisation sur la vision kanak de l'océan. À partir de demain, un livret synthétique qui explique le lien entre l'océan, la terre et les populations sera distribué aux institutions et aux écoles. L'objectif est de mettre en commun des solutions concrètes pour protéger la nature, explique Haïlé Tikouré. Il est référent de l'ère Djoubé à Kapoumé dans le travail de la vision kanak sur l'océan.
La citoyenneté, ça aussi, ça engendre des devoirs. Et puis dans les devoirs, il y a des lois à respecter. Et des lois naturelles qu'on n'a pas inventées. Et c'est des cycles qu'il faut respecter pour planter l'igname, pour élever le dawa. C'est ça qu'on affirme, je veux dire. Si on respecte ces cycles-là, on assure la durabilité de nos ressources. Et puis c'est tout l'enjeu d'un être insulaire. Hein. Et puis comme je dis souvent, ce travail-là, il veut être une base sur laquelle tous les Calédoniens doivent posséder. Parce que c'est à partir du moment où tu vis sur une île, il y a un nombre de connaissances que tu dois posséder pour ne pas mettre en péril tes ressources. Et c'est peut-être ça que l'expertise Kanak, elle est intéressante.
Une délégation du groupe de travail Vision Kanak de l'océan se rendra à Nice du 9 au 13 juin prochain pour la 3e conférence mondiale de l'océan. L'actualité dans la région et Canberra prendra toujours soin des États insulaires du Pacifique. C'est une déclaration de la ministre des Affaires étrangères australienne, Penny Wong, envoyée pour une tournée dans la région par le Premier ministre réélu, Anthony Albanese. Au-delà de la déclaration d'intention, elle a aussi fait des annonces concrètes, notamment sur sa première étape à Fidji, Jean-Pierre Zajac.
S'exprimant en présence du Premier ministre fidjien, Sitivenirambuka, et du secrétaire général du forum, Baron Waka, Penny Wong a déclaré que les produits insulaires du Pacifique seront toujours exemptés de droits de douane à leur entrée en Australie. Cela a été le cas ces 40 dernières années, a-t-elle dit, et cette mesure a contribué à la prospérité de la région. Elle a aussi annoncé que l'Australie a prévu de développer une somme proche des 150 milliards de nos francs d'aide au développement des îles du Pacifique. Nous avons réorganisé les priorités de notre aide au développement afin de consacrer 75% de cette aide au soutien de notre région, a-t-elle dit. L'Australie est un partenaire sur lequel le Pacifique peut compter, a-t-elle conclu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h43, une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Dimanche 25 mai, c'est la fête des mères. Pensez à réserver votre table dans le restaurant Les Trois Brasseurs au 24 15 16. Retrouvez la mini-carte spéciale fête des mères sur la page Facebook Les Trois Brasseurs Nouméa.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flick Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flick Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation de la lutte anti-termite. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flick Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Marlène Alma, Païta et Port-Plaisance, trois boutiques pleines de cadeaux. La parfumerie, la maroquinerie, la lingerie, le textile, Marlène, le seul plaisir d'offrir.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin. Actualité en métropole dominée par une petite phrase qui fait beaucoup réagir. La porte-parole du gouvernement Sophie Prima a en effet déclaré sur Europe 1 que les heures du macronisme étaient déjà comptées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette phrase a déclenché une tempête dans le bloc central. Arthur Delaborde pour Europe 1.
C'est une petite phrase de Sophie Prima qui fait grand bruit.
Le macronisme probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent, avec la fin du quinquennat.
La porte-parole du gouvernement, membre des Républicains, a immédiatement provoqué la colère du camp présidentiel à l'image de la députée Prisca Thévenot.
Quand on fait 4,8% aux dernières présidentielles et qu'on se retrouve à être ministre d'État, porte-parole du gouvernement, ce n'est que d'un seul fait, c'est justement le fait du macronisme. Donc maintenant, j'appellerai juste à de l'humilité, de la responsabilité, à se concentrer sur ce qui est le plus important, travailler pour les Français.
Sur la même ligne, plusieurs membres du gouvernement ont dénoncé une faute politique. Le patron de Renaissance, Gabriel Attal, a lui appelé Sophie Prima, tout comme le Premier ministre François Bayrou. En coulisses, la porte-parole aurait tenté d'éteindre l'incendie, parlant d'une maladresse. Pour autant, chez LR, on approuve ses propos, le député Philippe Gosselin.
De façon factuelle, ce qu'on pourrait appeler le macronisme est en fin de course. Pourquoi ? parce que dans 2 ans, le président de la République ne peut pas être candidat.
Une polémique qui intervient alors que les relations entre la droite et la Macronie sont sous tension 2 jours après la large victoire de Bruno Retailleau à la tête de LR.
Bruno Retailleau qui prend les rênes des Républicains 2 jours après son élection. Le nouveau président des LR a réuni un conseil stratégique et son premier message a été, après la lutte qu'il a opposée à Laurent Wauquiez, d'appeler à l'unité.
Aujourd'hui, il n'y a plus de retaillistes, il n'y a plus de wauquiéristes. Voilà, il y a des militants qui partagent des convictions et une même ligne, puisque regardez, nous portions en réalité une ligne qui était très proche l'une de l'autre.
Et ce conseil stratégique avait aussi pour but de définir les axes de travail que le nouveau président des LR entend mettre en œuvre.
Un des tout premiers chantiers pour moi, c'est important, c'est de redéfinir notre logiciel, c'est de faire un projet qui soit robuste, qui tienne compte de la France d'aujourd'hui. J'ai vu aussi sur le terrain beaucoup de nouveaux maires. Il faut qu'on réassocie tous ces talents et croyez-moi, vous en découvrirez, il y en a beaucoup.
Et notez que l'ancien Premier ministre Michel Barnier a été nommé président du Conseil national des Républicains. Une opération Prison Break dans les prisons de métropole. Plus de 500 cellules dans une 60aine d'établissements pénitentiaires ont été fouillées. Il s'agit de trouver des mini-téléphones portables utilisés souvent par les narcotrafiquants, des mini-téléphones fabriqués en Chine, de la taille d'un briquet avec un mini-clavier et un mini-écran. Ils permettent uniquement de passer des coups de fil, mais c'est suffisant pour que les délinquants poursuivent leurs activités criminelles depuis leur cellule. Parallèlement à cette fouille géante, 3 fournisseurs de ce téléphone ont été interpellés. Les frères musulmans ont une stratégie claire destinée à mettre la charia en place en France. C'est ce qui ressort d'un rapport choc de 73 pages qui décrit chiffre à l'appui l'influence des frères musulmans en métropole. Leur entrisme est clairement pointé du doigt. Pour le ministre de l'Intérieur, c'est le signe qu'il faut agir vite et fort. Mais a priori, l'Élysée n'est pas sur la même ligne. Jacques Serret pour Europe 1.
Bruno Retailleau voulait initialement rendre public lui-même ce rapport confidentiel, mais Emmanuel Macron en a voulu autrement. Afin de tenter de contrôler la potentielle déflagration, l'Élysée a repris la main. Mais entre la place Beauvau et la rue du Faubourg-Saint-Honoré, le discours n'est pas exactement le même. Le chef de l'État préfère prendre des précautions. Il faut bien faire la distinction entre le séparatisme qui pousse à se mettre ostensiblement en retrait et l'entrisme qui est dissimulé, analyse minutieusement un conseiller élyséen avec beaucoup de prudence. Le président appelle à un discours équilibré. Il ne faut pas faire d'amalgame, insiste le même. Ou comment Emmanuel Macron compte marquer sa différence alors que cette réunion stratégique doit faire l'objet d'arbitrage. Selon les informations d'Europe 1, plusieurs mesures ont été évoquées lors de récentes réunions, comme le démantèlement de certaines associations et la révision d'agréments pour les établissements scolaires sous contrat. Des solutions déjà utilisées ces dernières années et qui n'ont pas suffi.
L'actualité en métropole, c'est aussi cette vaste opération anti-immigration illégale qui a été menée dans plusieurs départements. C'est le cas par exemple en Gironde, où les forces de l'ordre ont particulièrement ciblé les bus commerciaux. Ce moyen de transport est souvent privilégié par les clandestins pour voyager en Europe. Reportage de Stéphane Place sur l'autoroute A10 près de Bordeaux.
Vous parlez français ? Vous pouvez me présenter votre carte d'identité, votre passeport, votre visa, s'il vous plaît.
Particulièrement ciblé par les gendarmes ici au péage de Virsac sur la 10 en direction de Paris, les cars commerciaux qui arrivent de la péninsule ibérique.
Nous, c'est une unité spécialisée où on fait que ça, en fait. L'immigration, le travail dissimulé, la fraude documentaire. Il n'y a pas de valise, rien.
Vous n'avez pas fait de demande au titre de séjour en France ?
Pour l'Est,
Mais il faut la faire, monsieur. Vous pouvez pas rester en France, c'est pas possible. Visa, il n'y a pas de visa, monsieur. Vous descendez, vous venez avec moi.
Grégory Lecru, le directeur de cabinet du préfet de la Gironde.
À l'instant même, donc, contrôle d'un bus qui arrive de Lisbonne, qui est passé par Madrid. Donc, 5 personnes semblent être en situation irrégulière. Donc, elles vont être conduites dans différentes brigades de gendarmerie pour vérification de leur situation au regard du droit au séjour, dans le cadre d'une rétention administrative. Il va y avoir un échange avec le service immigration de la préfecture, au terme duquel sera décidée une orientation de type OQTF, assignation à résidence, réadmission éventuellement en Espagne ou placement en centre de rétention administrative.
Une opération d'ampleur qui mobilise une centaine de gendarmes, douaniers et policiers déployés sur différents points de passage dans le département où 2744 personnes en situation irrégulière ont été interpellées en 2024, 930 depuis le début de cette année. Virsac, Stéphane Place, Europe 1.
Et dans le reportage que vous venez d'entendre, Grégory Lecru, c'est l'ancien commissaire délégué à la province sud. Et puis encore un mot d'actualité en métropole. Le Var, victime d'importantes chutes de pluie, notamment hier, où il est tombé 255 mm en une heure seulement. 3 personnes âgées sont mortes, emportées par les eaux. À 11h50, la dernière pause de ce journal avant de voir avec Mickaël Juneski l'ensemble de l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Brrr, il commence à faire frais. J'aurais bien besoin de nouveaux vêtements chauds. Ne tardez pas, jusqu'au 25 mai, direction Gémeaux pour y découvrir la nouvelle collection hiver qui réchauffera toute la famille à petit prix. Sans oublier les idées cadeaux pour la fête des mères.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Pour le déjeuner du dimanche 25 mai, célébrez les mamans au restaurant de l'Escale Château Royal. Notre chef vous a concocté un menu raffiné et savoureux, spécialement imaginé pour l'occasion. Un amuse-bouche parfumé, deux entrées et deux plats au choix, et pour finir, une note sucrée tout en fraîcheur et en gourmandise. Le tout pour seulement 6400 francs. On ne vous en dit pas plus? Découvrez le menu complet sur notre page Facebook Château Royal. Info, réservation et prépaiement à la réception de l'hôtel ou par téléphone au 29 64 00.
Découvrez Papaye, le nouveau service d'autopartage 100% digital pour les particuliers et les pros. Réservé en un clic et roulé en toute liberté, www.papaye.nc.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, c'est la suite d'Infomag. En retour, Jean-François Baudin.
On va commencer par le football et sans surprise, malheureusement, Antoine Comboiré a été remercié par la direction du FC Nantes, Michael.
Eh oui, malgré le maintien en Ligue 1, le départ une nouvelle fois de l'emblématique entraîneur des Canaries a été acté aujourd'hui. On avait eu l'occasion d'entendre sur notre antenne à la suite du dernier match des Nantais qu'Antoine Comboiré s'attendait à cette décision, même s'il était toujours sous contrat jusqu'en 2026, tout simplement parce que le président du club souhaite prendre une autre orientation. Valdemar Quitta qui a déclaré par voie de communiqué de presse, je cite, « Je voudrais remercier Antoine pour le travail effectué durant ces 14 derniers mois. Je pense que peu de gens se rendent compte du rythme, de la pression et de la fatigue physique et mentale d'un entraîneur. Antoine a réussi à maintenir le club dans l'élite deux saisons de suite alors que la situation économique est difficile. C'est une page qui se tourne et un nouveau chapitre qui s'ouvre. » Fin de citation. Je rappelle qu'Antoine Comboiré avait fait un nouveau retour sur le banc de Nantes en mars 2024. Il avait déjà été rappelé à la rescousse en février 2021 pour rester en poste jusqu'en mai 2023 avec comme fait d'armes le maintien de finales de Coupe de France dont une remportée en 2022 ainsi que le retour en Coupe d'Europe. Alors d'après les informations du quotidien L'Équipe, Antoine Comboiré a rapidement trouvé un nouveau poste mais pas en tant qu'entraîneur. En effet, il sera aux commentaires de la finale de la Ligue des Champions entre l'Inter Milan et le PSG. Ce sera sur M6 le 31 mai prochain. La chaîne attendait que son départ du FC Nantes soit acté avant d'enregistrer sa venue. On retrouvera donc le coach calédonien pour faire vivre la finale du Paris Saint-Germain avec l'espoir de voir son ancienne équipe remporter le plus prestigieux des trophées des clubs.
On va passer au cyclisme maintenant avec cette nuit, enfin la nuit dernière pour nous, la deuxième étape du Tour d'Italie.
La victoire du jour sur un contre-la-montre de 29 km jusqu'à Pise est revenue au Néerlandais Dan Hull de la formation Lidl Trek. Il a devancé les Britanniques Joshua Tarling et Ethan Hayter. Au classement général, le Mexicain Isaac Del Toro reste leader pour 25 secondes de mieux que l'Espagnol Juan Ayuso. On retrouve au pied du podium, au 4e et 5e place, Simon Yates et Primoz Roglic qui restent donc en embuscade à environ 1 minute du maillot rose. Alors que le peloton s'élancera ce soir sur une 11e étape de 186 km avec 3 cols sur la route, dont 2 de 2e catégorie avant le final.
Le tennis est à la proche du début officiel de Roland-Garros. Ce sera le week-end prochain pour nous. Plusieurs tournois sont en cours.
Et le Français Gaël Monfils qui est allé s'échauffer en Allemagne au tournoi de Hambourg, un ATP 500 dans lequel il a été battu dès le premier tour par l'Espagnol Davidovich Fokina 6-3-6-3. Toujours à Hambourg, Giovanni Mpetit-Péricard continue l'aventure, lui, après son succès sur le Kazakh Alexander Bublik 7-6-6-4. Au tournoi de Genève, cette fois, Arthur Cazaux s'est logiquement incliné contre le Polonais tête de série numéro 6, Hubert Hurkacz. Arthur Rinderknecht s'est lui qualifié pour le deuxième tour aux dépens du Serbe Kekmanovic 6-4-6-2. Et puis chez les dames, fin de partie pour Diane Paris à Strasbourg. La tricolore a été sortie dans le deuxième tour par la Russe Samsonova 6-4-6-4.
Le sport en Calédonie, avec ce grand moment pour l'UNSS, un premier trail de l'année se déroule aujourd'hui à Deva.
Et plus d'un millier de jeunes sont réunis pour courir ensemble. Ils ont répondu massivement à l'appel pour cette première épreuve au calendrier des trails de l'UNSS. L'occasion de promouvoir le sport santé. Pierre-Jean Roumego est le directeur de l'UNSS.
On repart avec le trail, c'est le premier gros événement de l'année. Dans un cadre somptueux, puisqu'on est sur les berges de Deva, ça regroupe cette année 1050 jeunes, ce qui est un record en soi. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une grosse demande de la part des collègues et des élèves de participer à ce type d'événement. Et comme il y a eu l'année dernière, en 2024, pas grand-chose de fait, il y a eu qu'un trail de fait, donc il y a apparemment une grosse demande. Donc 1050 élèves pour 46 établissements sur les 77 du territoire. On a mis en place trois parcours, un parcours santé et Benjamin qui fait 3 km, un autre pour les minimes de 6 km et pour les cadets un parcours de 9 km. Du trail, pleine nature, donc avec des objectifs évidemment de sensibilisation à la santé. Il n'y a pas de chrono de prix, on ne prend en fait que l'ordre chronologique d'arrivée. Donc ça permet de ne pas non plus aller dans le dépassement de soi, on va vraiment dans des objectifs de santé, de partage et de bien-être.
Les participants sont âgés de 11 à 17 ans. Les épreuves se déroulent donc jusqu'aux environs de 16h à Deva.
Merci Mickaël, il est 11h56. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une belle après-midi.